verset 16 à 21. Monseigneur Jean-Paul Génère vénère l'évangéliaire qui lui est présenté par le diacre et va maintenant prononcer l'homélie de cette messe chrismale.
La semaine sainte nous est donnée par l'Église comme un temps de retraite annuel. Au fil des différentes célébrations, ces journées de grâce enracinent de manière plus intense nos personnes, l'Église et l'humanité entière dans le mystère du Christ mort et ressuscité. Nous contemplons le Fils de Dieu venu en notre chair. Nous le suivons sur son chemin de douleur et d'oblation jusqu'à la mort. Avec lui, nous sommes ensevelis au tombeau. Il nous saisit dans sa résurrection. Son esprit nous est donné. Il nous consacre. Et nous pouvons alors recevoir et remplir la mission dont Jésus lui-même fut le serviteur fidèle. Porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres, aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Le Christ s'applique à lui-même ces paroles du prophète Isaïe. Elles ont soulevé au cours des siècles de nombreux enthousiasmes. Elles ont mobilisé de multiples énergies. Elles ont orienté tant de combats. Ces paroles toutes les douleurs et les souffrances, les peurs et les blessures auxquelles se heurte une humanité inachevée qui bute sur une impossibilité jamais surmontée. Cette humanité ne parvient pas à se donner à elle-même l'épanouissement, le bonheur et la plénitude qui habitent pourtant ses plus profonds désirs. Dans le Christ souffrant et mourant par amour, dans sa victoire sur la mort, cette redoute accompli, il ouvre largement les bras à ses enfants et restaure en eux l'image de son amour infini. Oh oui, bien sûr, il nous appartient de travailler ardemment à la guérison de toutes les infirmités humaines, physiques, morales et spirituelles qui défigurent le beau visage de chaque être humain en qui Dieu veut se refléter. En ces jours bénis, où nous communions plus intimement à la Pâque du Christ, nous comprenons et nous savons qu'en dehors de Jésus, nos efforts sincères, louables et généreux ne parviendront jamais à leur achèvement. L'homme ne revit que dans le Christ. Il est, selon les mots de l'Apocalypse, l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Nul ne peut reprocher à son semblable d'être aveugle, sourd, opprimé, pauvre, enchaîné. Ses infirmités et ses épreuves ne peuvent être guéris et soulagés que par une intervention extérieure et puissante. À plus forte raison, la cécité, la surdité, l'emprisonnement, l'opacité du cœur de l'homme ne trouveront qu'en celui qui a tout donné et s'est donné jusqu'à la mort, le médecin et le remède qui rendront l'humanité à la vie. Cet unique sauveur lui offre l'unité dans la paix, la vérité, la justice, dans l'amour du Père pour ses enfants et des frères et sœurs, ainsi rassemblés au sein d'une unique famille. Tous les sacrements, notamment le baptême, nous font partager cette nouveauté. Ils nous associent au mystère pascal du Christ et nous font déjà goûter la saveur de la création purifiée de ses limites et du péché. Les sacrements nous greffent sur le Christ, nous permettent de le suivre et de l'imiter. Nous devenons ses témoins. Nous annonçons la bonne nouvelle aux pauvres et l'année des bienfaits de Dieu. Nous nous en souvenons particulièrement. Nous ne l'oublions pas au jour où nous bénissons l'huile des malades, l'huile des catéchumènes et où nous consacrons le Saint-Crème. En cet instant, nous est indiqué le seul chemin que peuvent emprunter les missionnaires de l'Évangile. Ils ne seront que les chantres d'eux-mêmes, de leurs idéologies et de leurs appétits, s'ils servent et promeuvent une autre voie que celle du don de soi, de l'abaissement, du renoncement. Ils savent, avec les fils de Dieu, qu'il leur faut aller à la rencontre de toutes les personnes qui incarnent ce don, cet abaissement, ce renoncement. Nous avons entendu dire, malgré les secrets d'un conclave, qu'au moment où les suffrages des cardinaux convergeaient dangereusement vers l'archevêque de Buenos Aires, son voisin lui a murmuré « N'oublie pas les pauvres ». C'était sans doute le plus sûr moyen de lui rappeler qu'il devait garder l'âme, les yeux, le cœur, l'intelligence fixés sur Jésus-Christ lui-même. Retrouver les plus petits, les plus humbles, les plus méprisés, pour trouver avec eux, près d'eux, le Fils de Dieu, maltraité, couronné d'épines, flagellé et mis à mort. Aucune autre attitude que celle-là ne peut nous garantir que nous ne faisons pas fausse route. Là est la route de notre foi, de notre ministère, de notre service, de l'évangélisation. Seul ce dépouillement fait paraître en pleine lumière la beauté de la vie conjugale fidèle, la splendeur de la famille unie, le respect inconditionnel de toute vie, les multiples formes d'engagement au service du bien commun, dans le domaine social, économique, politique, caritatif, associatif. Seul ce dépouillement donne sens à tous les appels qui jamais ne seront confondus avec une affirmation égoïste de soi ou un pouvoir sournois. C'est encore ce dépouillement qui nous ouvre au pardon, à la miséricorde, à la tendresse de Dieu. Quand l'échec, l'orgueil, la faiblesse, l'adversité et le péché trahissent le meilleur dessein de l'amour de Dieu pour chacun et chacune d'entre nous et pour tous nos frères humains. C'est le même dépouillement qui orientera les synodes sur la famille qu'a convoqué le pape François. Il est aussi l'étoile qui guide le déroulement du synode provincial de nos trois diocèses de Lille, Arras et Cambrai. Un synode suggère toujours quelques orientations concrètes, mais elles ne sauraient être le fruit de tractations, d'arrangements, d'ajustements. L'Église universelle, les églises locales ne sont pas des institutions, des entreprises ou des commerces qui doivent sauvegarder une influence, des intérêts, des places et des situations. Une seule question mérite finalement d'être posée. Comment l'Église, dans le monde et dans nos diocèses, est-elle assez humble, pauvre et dépouillée pour demeurer, selon la belle définition du Concile Vatican II, signe et moyen en Jésus-Christ? Plus que jamais, nous pouvons être sûrs que dans la conversion se trouve notre force et notre avenir. Personne ne fera l'économie de cette conversion. Gardons-nous bien de la tentation de faire de l'Église le lieu de notre propre projet, de notre vision, de notre désir. Bien que nous proclamions le contraire, il nous arrive plus ou moins consciemment de nous servir de l'Église au lieu de la servir. Il ne s'agit pas de maintenir ou de conquérir des positions, mais d'avancer jour après jour sur le chemin d'une vie que nous n'agrippons pas. Nous la recevons sans aucun mérite de notre part. Comme le Christ, c'est au moment où nous aurons tout donné que nous pourrons recevoir la vie. Frères prêtres, vous savez peut-être mieux que quiconque ce que signifie tout perdre pour marcher à la suite du Christ et prendre la croix. Vous n'êtes plus les personnages qu'ont pu être vos aînés dans une société qui recevait tant bien que mal ses rites et de l'enseignement de l'Église. Vos devanciers rassemblaient abondamment. Il vous faut aujourd'hui partir à la recherche, appeler et inviter. Vous avez la joie d'accueillir celles et ceux qui se tournent vers vous. Vous savez cependant qu'il faudra marcher longuement à leur côté pour que le Seigneur ouvre leurs yeux et leur cœur à la vraie richesse du mariage qu'ils décident un jour de solliciter, du baptême qu'ils demandent pour leurs enfants, de l'Eucharistie dont ils n'ont plus que le souvenir, de la pénitence et de la réconciliation qu'ils découvrent ou redécouvrent dans des circonstances souvent étonnantes. Oh oui, chers frères prêtres, vous faites l'expérience quotidienne du dépouillement, du renoncement, de la pauvreté. Mais ils sont la garantie de la fécondité de votre ministère. Partagez-les avec vos frères diacres, les religieux, les religieuses, les consacrés, les fidèles laïcs qui reçoivent une mission particulière, tous les membres du peuple de Dieu, partagez-les avec ces hommes et ces femmes croisés dans les périphéries. Une Église dont les membres, quelle que soit leur responsabilité, se disputent mutuellement des domaines, confisquent les places, jalousent les pouvoirs, organise la suprématie, une telle Église court à sa perte. Elle ne présente aucun intérêt, car elle ne sert plus et ne manifeste plus le Christ que Dieu a exalté, parce qu'il s'est abaissé, abaissé jusqu'à la mort et la mort de la croix. Frères prêtres, rappelez-vous à vous-même et proclamez haut et fort que le Christ n'a autorité et fait d'autorité parce que sa parole est celle du Père, ses œuvres sont celles du Père. Il n'est véritablement reconnu qu'au moment où, ayant tout abandonné, il meurt. Il se révèle du haut de la croix, Fils de Dieu. Il ressuscitera. de ce Seigneur, vous êtes les ministres. Sur la croix avec le Christ, avec lui dans l'aube glorieuse de Pâques, vous serez toujours le cadeau que Dieu fait à son Église pour évangéliser, sanctifier et gouverner. Ainsi, tous les membres de l'Église peuvent être missionnaires et proclamer la bonne nouvelle. Contre vents et marées, s'accomplit aujourd'hui la parole du prophète Isaïe, la parole du Christ, elle ne passera pas.
En direct de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption et Saint-Val d'Arras, vous venez d'entendre à l'instant sur RCF Nord de France la homélie prononcée par l'évêque d'Arras, Monseigneur Jean-Paul Jaeger.